Vous écoutez
RMC. RMC. Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce sont les oubliés des politiques sur le logement. Ces Français contraints de vivre chez un tiers, plus ou moins proche, faute d'alternative. Ils sont 600 000 dans cette situation, un phénomène en hausse. Le logement, c'est l'un des sujets sur lesquels le Premier ministre veut se concentrer, maintenant que le budget a été définitivement adopté, avec plus d'un mois de retard. Et puis les liens financiers et immobiliers entre la famille de Jack Lang et le criminel sexuel Jeffrey Epstein font grand bruit. L'ancien ministre de la Culture assume, mais on ne peut pas en dire autant de sa fille.
2025 aura été une année noire pour le mal-logement.
Avec 1 100 000 personnes qui n'ont pas de chez elles, à la rue ou encore dans des centres d'hébergement, mais aussi, et c'est la réalité sur laquelle la Fondation pour le logement a voulu attirer l'attention dans son rapport annuel, c'est près de 600 000 Français hébergés par une connaissance, pas par choix, mais par obligation. Ils sont 15% de plus qu'en 2013, des chiffres très probablement sous-estimés, car les situations d'hébergement sont multiples, complexes et souvent cachées, comme vous avez pu le constaté pour RMC, Amélie Courtet.
Bienvenue dans ma chambre.
La chambre de Chelsea, 26 ans, c'est un salon, son lit, un canapé dans lequel elle dort avec sa mère de 65 ans.
Personne ne sait qu'on vit chez ma sœur. C'est des choses qu'on ne peut pas dire, enfin, on a un peu honte.
Est-ce que vous voyez ça? Je viens habiter chez ma fille. Non, c'est trop.
Elle a l'impression de rétrograder.
Voilà. Bon, j'en pleure des fois.
Il y a 6 ans, Chelsea et sa mère sont arrivées avec toutes leurs affaires.
Ils ont augmenté de 200 euros le loyer. On n'a pas pu rester dans le logement.
Au début, ça devait être 6 mois maximum, mais la demande de logement social traîne.
J'ai pas de nouvelles. Quand est-ce que je vais retrouver mon lit?
Impossible de se projeter dans cet espace confiné, sans intimité. Comme Chelsea, comme sa mère, les 18-26 ans et les personnes de plus de 60 ans sont surreprésentées parmi les personnes hébergées par un tiers. Edgar Obis, chargé d'études à la Fondation pour le logement.
Le nœud du problème, il est dans le fait qu'on ne considère pas l'hébergement chez le tiers comme un mal logement à part entière. Ça a des conséquences directes sur le fait que la solidarité privée est plus importante encore aujourd'hui que la solidarité d'État.
Ces préconisations, construire plus de logements et généraliser l'encadrement des loyers.
Et pour ce faire, la Fondation pour le logement en appelle aux candidats aux municipales et déplore le manque d'engagement du gouvernement, l'instabilité politique et l'absence du budget. Un problème fraîchement résolu puisque le budget 2026 a été définitivement adopté hier soir après le rejet des deux dernières motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. Il y a d'ailleurs quelques mesures pour le logement, mais il y a surtout beaucoup de coupes budgétaires, notamment au sein des ministères, Romain Cluzel.
Et seuls les ministères régaliens sont épargnés. La justice, l'intérieur et l'armée, tous les autres, de l'écologie à l'éducation, voient leur budget baisser, ce qui scandalise le député LFI du Nord, Aurélien Lecoq.
Moi, dans mon département, c'est plus de 325 postes d'enseignants qui vont être supprimés. C'est des fermetures de places de crèches avec des coupes dans les collectivités territoriales. C'est ça la réalité de la violence de ce budget.
Des efforts, certes, mais plusieurs parlementaires s'inquiètent déjà. L'objectif fixé par le gouvernement d'un déficit à 5% du PIB est-il tenable? Le député Horizon Laurent Marcangeli, pourtant membre du Bloc central, se dit circonspect.
En matière de lutte contre le déficit public, le gouvernement n'a pas été suffisamment ambitieux. Nos dépenses ne diminuent pas assez vite. Je crois que malheureusement, ça ne suffira pas.
Ce budget n'est qu'une étape, répond le rapporteur général du budget, Philippe Juvin.
Ça doit être non seulement tenable cette année, mais tenable pendant plusieurs années d'affilée. Baisser la dépense publique, ça ne signifie pas moins de services publics. Vous pouvez aussi faire en sorte de baisser des dépenses qui deviennent moins utiles.
Et le député LR prend l'exemple des 4000 postes d'enseignants supprimés qu'il justifie par la baisse de la démographie.
Et quid des agriculteurs après avoir reçu leur syndicat hier à l'Élysée? Emmanuel Macron part à leur rencontre aujourd'hui à Vesoul en Haute-Saône en vue du salon qui ouvrira ses portes à la fin du mois. On y revient dans le journal de 8h. Il est 7h35 et lui assume pleinement ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Mais on ne peut pas en dire autant de sa fille, alors que l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, tente de se défendre, assurant qu'il n'avait à l'époque aucune connaissance des crimes du milliardaire qui s'est suicidé dans sa cellule en 2019. Sa fille Caroline a, elle, fait le choix de démissionner hier soir du syndicat des producteurs indépendants. Décision prise après la publication de nouveaux documents par la justice américaine. Alfred Orange.
Ces documents déclassifiés par la justice américaine prouvent l'existence de liens financiers étroits entre la famille Lang et Jeffrey Epstein. Ensemble, ils ont notamment créé une société offshore il y a 10 ans. Ce fonds géré par Caroline, fille de Jack Lang, avait pour but de promouvoir de jeunes artistes français et internationaux. Une relation qui ne se limitait pas aux affaires. Jack Lang et Jeffrey Epstein partageaient aussi dîners et voyages privés, mais aucun document ne laisse penser que la famille Lang a pu jouer un quelconque rôle dans les crimes sexuels du prédateur américain. Dans un communiqué, l'ancien ministre dit n'avoir rien su à l'époque des agissements du criminel sexuel. Si j'en avais été informé, assure-t-il, j'aurais stoppé tout net mes relations avec lui.
Il est 7h36 sur RMC. On en sait plus ce matin sur le parcours du 15 de France à la Coupe du Monde de l'année prochaine en Australie. Les Bleus affronteront d'abord les États-Unis, puis le Japon et les Samoa. Mais avant cela, place au tournoi des Six Nations qui démarre jeudi face à l'Irlande. Et on va assister au grand retour de Mathieu Jalibert qui avait disparu des feuilles de match de Fabien Galthié. L'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles sera titulaire et il revient beaucoup plus fort, Nicolas Paolorsi.
Oui, le déclic s'est produit il y a un an lors d'un match de l'équipe de France. Jalibert est ciblé pour sa défense jugée mauvaise. Son coéquipier chez les Bleus est en club, Maxime Lucu.
C'est vrai qu'il s'est mis en tête de progresser là-dessus et d'être un petit peu plus consistant.
Les critiques et les absences en bleu, Mathieu Jalibert a appris à les digérer. Le sélectionneur Fabien Galthié.
Un joueur de l'équipe de France, il doit être capable de traverser ce type de période difficile. Il faut être prêt. Souvent, je leur dis n'importe quand, n'importe qui, n'importe où.
Le demi d'ouverture sera associé au meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, pour qui le choix de Jalibert en 10 ne fait pas de débat.
Cette année, il montre à tout le monde que c'est un grand joueur. Moi, ça s'est toujours très bien passé à chaque fois que j'ai joué avec lui. J'ai toujours apprécié jouer avec lui.
Baptiste Serin, l'autre demi de mêlée des Bleus, n'émet aucun doute sur la qualité de cette association.
On se pose des questions là où il n'y en a pas. Quand tu associes Dupont et un Jalibert, je pense qu'il y a peu de charnières qui peuvent aligner de talents comme ça dans le monde.
Mathieu Jalibert n'a jamais semblé aussi fort. Son retour était attendu et pourrait être un tournant dans son histoire avec l'équipe de France.
En football, c'est le retour de la Coupe de France ce soir avec les huitièmes de finale. Marseille reçoit Rennes à 21h10, un match à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, Élise.
13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC avec le favori aujourd'hui qui est le numéro 8, Jane Cash. L'outsider, c'est le 7, Xerava CD.
C'était difficile.
Un peu dur aujourd'hui.
Mais
je m'en suis sortie.
Bravo, Élise. C'était le journal Élise d'Angers.